Chapitre 3. Une rencontre sur la route. 1. Elle n'avait jamais passé de soirée aussi étrange de sa vie. Cela n'eut donc rien de surprenant qu'elle n'entende pas le cavalier approcher dans son dos jusqu'à temps qu'il fût presque sur elle. Tandis qu'elle s'en retournait en ville, la chose qui la turlupinait le plus, c'était la nouvelle compréhension de l'accord qu'elle avait passé. C'était bel et bon d'avoir un délai. Elle avait plusieurs mois devant elle avant le terme du marché. Mais un délai ne changeait rien au fond de l'affaire. Quand la lune du démon serait pleine, elle perdrait sa virginité entre les bras du maire Thorin, un homme maigre comme un clou et plein de tics, dont les cheveux blancs et bourriffés couronnaient le sommet d'un crâne chauve comme un nuage. Un homme que sa propre épouse considérait avec une lassitude teintée de tristesse, pénible à regarder. Hathorin était un homme qui partait d'un rire tonitruant quand une troupe de théâtre présentait un divertissement à base de bastonnades, de faux coups de poing ou de lancers de fruits pourris, mais qui assistait d'un air ahuri au récit d'une histoire tragique ou simplement pathétique. Un homme qui faisait craquer ses jointures, distribuait des bourrades dans le dos, rôtait à table et avait la manie de regarder avec anxiété son chancelier au moindre mot, comme pour s'assurer qu'il n'avait pas offensé Rimmer en quoi que ce fût. Suzanne avait eu plus d'une occasion d'observer tout cela. Pendant des années, son père avait eu la charge des chevaux de la baronnie et s'était souvent rendu à Front de Mer pour affaires. Et maintes fois, il y avait emmené sa fille tant aimée. Oh, elle avait eu plus que son sou de Hathorin au fil des années, et lui, de même, l'avait vu plus souvent qu'à son tour. Beaucoup trop, peut-être. Car le fait le plus marquant le concernant à présent, c'est qu'il avait une cinquantaine d'années de plus que la fille qui porterait peut-être son héritier. Elle avait conclu ce marché avec une certaine légèreté. Non, pas avec légèreté. Elle était injuste envers elle-même. Disons que ça ne l'avait pas empêchée de dormir, au vrai. Elle s'était dit comme ça, après avoir écouté tous les arguments de Tancord. Ah, c'est bien peu de choses en fait pour posséder des terres en contrat bilatéral, pour avoir au final notre petit morceau d'aplomb, réellement tout autant que coutumièrement, pour avoir de vrais documents, un à la maison et l'autre dans les archives de Rimmer, stipulant que c'était bien à nous. Si fait, et pour avoir des chevaux à nouveau. Trois seulement, c'est vrai, mais c'est toujours trois de mieux que ce qu'on a maintenant. Et tout ça contre quoi? Coucher une fois ou deux avec lui et porter un enfant, ce que des millions de femmes avant moi ont fait sans dommage. Après tout, ce n'est ni à un mutant ni à un lépreux qu'on me demande de m'accoupler, mais juste à un vieillard qui se fait craquer les doigts. Ce n'est point pour toujours, et comme le dit Tancord, je pourrais encore me marier si le temps et le cas le décrètent ainsi. Je ne serai pas la première à entrer dans la couche de son mari en étant mère. Est-ce que ça fait de moi une putain pour autant? La loi dit que non, mais peu importe. La loi de mon cœur est la seule qui compte. Et mon cœur me dit que si j'acquire la terre qui était à mon pas et trois chevaux pour la parcourir en étant déclaré tel, alors putain, je serai. Il y avait autre chose. Tancord avait tablé, d'une façon plutôt brutale, Suzanne en prenait conscience maintenant, sur l'innocence d'une enfant. Tancord n'avait pas arrêté de radoter sur le bébé, le mignon petit bébé qu'elle aurait. Tancord savait d'avance que Suzanne, les poupées de son enfance mises au rencard depuis point trop longtemps, chérirait l'idée d'avoir son propre bébé, une petite poupée bien vivante à vêtir, à nourrir, avec laquelle faire la sieste au plus chaud de l'après-midi. Ce que Cordelia avait ignoré, peut-être est-elle trop innocente pour l'avoir même envisagé, songea Suzanne. C'était ce que la mégère lui avait révélé clairement cette nuit même. Thorin désirait plus qu'un enfant.
Il veut des tétons et un cul qui tremblote point comme de la gelée sous la main et une boîte à ouvrage qui lui agrippe bien ce qu'il y fourra.
Le simple fait de se rappeler ces paroles lui mit le feu aux joues pendant qu'elle se dirigeait vers la ville dans l'obscurité d'après le coucher de la lune. Ni course enjouée, ni chanson non plus, cette fois. Elle avait accepté la chose en songeant vaguement à la façon que le bétail avait de s'accoupler. On laissait faire, jusqu'à ce que la semence ait pris, puis on les séparait. Mais maintenant, Elle savait que Thorin pourrait la vouloir encore et encore, la voudrait probablement encore et encore. Le droit coutumier, dont la loi des reins remontait à 200 générations, disait qu'il pouvait continuer à coucher avec elle jusqu'à ce que celle qui avait attesté de son honnêteté de future gueuse atteste de l'honnêteté de l'enfant à venir, à savoir qu'il était en tout point honnête et non pas une quelconque aberration mutante. Suzanne s'était enquise discrètement et avait appris que cette seconde épreuve survenait habituellement aux alentours du 4e mois de grossesse, à peu près à l'époque où cela commençait à se voir, même habillé de pied en cap. Il incombrait à Rhea de donner un avis, et comme Rhea ne l'aimait pas. Maintenant qu'il était trop tard, maintenant qu'elle avait accepté l'accord formellement offert par le chancelier, maintenant que cette mégère bizarre avait prouvé son honnêteté, elle regrettait amèrement ce marché. Elle avait surtout en tête le spectacle qu'offrirait Thorin, son pantalon retiré avec ses jambes maigres et palichonnes comme des pattes de cigogne. Elle entendrait, une fois couchés ensemble, ses longs os craquer, ceux de ses rotules, ceux de sa colonne, ceux de ses coudes et de sa nuque.
Et ceux de ses phalanges, les gardes d'oublier les jointures de ses phalanges. Oui, ses grosses phalanges de vieillard pleines de poils.
Suzanne ne put s'empêcher de pouffer à cette idée. C'était tellement comique, mais en même temps, une chaude larme coula subrepticement le long de sa joue. Elle l'essuya d'une main machinale, sans y prêter plus d'attention qu'au clip-clop de sabots qui approchait, étouffé par la poussière de la route. Elle avait l'esprit à nouveau ailleurs, occupée de l'étrange vision qu'elle avait aperçue par la fenêtre de la chambrette de la vieille. La douce et en même temps désagréable lumière qu'émettait la boule rose et le regard hypnotique qu'avait eu la mégère en la fixant. Quand enfin Suzanne entendit le cheval qui s'approchait, prise de panique, la première idée qui lui vint fut d'aller se cacher dans les taillis de la forêt devant lesquels elle passait. Les chances que quiconque d'un tant soit peu respectable se trouve sur la route à une heure aussi tardive lui paraissaient minces, en particulier en ces temps calamiteux qui s'étaient abattus sur l'entre-deux-mondes. Mais il était déjà trop tard pour gagner le couvert des arbres. Restait le fossé où s'allonger en se tenant coite. La lune étant couchée, restait au moins une chance que le kidam passerait son chemin sans... Mais avant même d'avoir pu s'y diriger, le cavalier qui s'était faufilé derrière elle pendant qu'elle ruminait ses funestes pensées la saluait déjà.
« Bonne nuitée, gente dame, puissent vos jours être longs sur la terre !»
Elle se retourna, songeant. Et si c'était l'un de ces nouveaux venus toujours à traînasser autour de la maison du maire ou au repos des voyageurs? Ce n'est point le plus âgé, en tout cas. Sa voix ne chevrotte pas comme la sienne. Mais l'un des autres, peut-être, celui qu'ils appellent de pape.
« Bonne nuitée !»
s'entendit-elle répondre à la silhouette masculine.
« Que les vôtres le soient aussi !»
Sa voix ne tremblait pas à ce qu'elle en percevait. Elle ne pensait pas qu'il s'agît de pape, ni de celui qu'on appelait Reynolds non plus. La seule chose dont elle fut sûre quant à l'individu, c'est qu'il portait le chapeau plat caractéristique des hommes des baronnies intérieures, à l'époque où voyager d'est en ouest était beaucoup moins rare qu'aujourd'hui. Bien avant l'avènement de John Farson, l'homme de bien, et le début des effusions de sang. L'étranger arrivant à sa hauteur, elle se pardonna un petit peu de ne point l'avoir entendu approcher. Elle n'apercevait ni boucle ni clochette dans son équipement, et tout était attaché de sorte à ne pas claquer ni taper. C'était presque l'attirail d'un hors-la-loi ou d'un écumeur. Elle avait dans l'idée que Jonas, celui à la voix chevrotante, et ses deux amis avaient dû être l'un et l'autre en d'autres temps et sous d'autres climats. Ou même d'un pistolero. Mais cet homme-là n'avait point d'armes à feu, à moins qu'il ne les ait dissimulées. Un arc accroché au pommeau de sa selle et... ce qui avait l'air d'une lance dans sa gaine. Rien d'autre. Et jamais, à sa connaissance, il n'y avait eu de pistolero aussi jeune. Il arrêta net son cheval d'un claquement de langue, comme son pas l'avait toujours fait, et elle aussi, par voie de conséquence. Au moment où il passait sa jambe par-dessus la selle avec une grâce dont il n'avait pas conscience, Suzanne lui dit
« Non, non, étranger, ne vous mettez point en peine et poursuivez votre chemin. »
S'il avait perçu de la frayeur dans sa voix, il fit mine de ne pas s'en rendre compte. Il se laissa glisser à bas du cheval sans s'embarrasser des étriers et atterrit en souplesse devant elle, soulevant la poussière de la route de ses bottes à bout carré. À la lueur des étoiles, elle vit qu'il était jeune et du même âge qu'elle, à peu de choses près. Ses habits, bien que neufs, étaient la tenue de travail d'un cow-boy.
« Will Dearborn, pour vous servir ?»
fit-il avant d'ôter son chapeau et de lui faire un profond salut en prenant appui sur le talon à la mode des baronnies intérieures. Une courtoisie s'y déplaçait, ici, au milieu de nulle part, alors que l'odeur âcre du pétroleum en bordure de la ville lui chatouillait déjà les narines, chassa toutes ses craintes et lui provoqua un bel éclat de rire. Alors qu'elle songeait qu'il en serait probablement froissé, il sourit en retour. Un bon sourire, honnête et dénué d'artifice, qui révéla une rangée de dents régulière. Elle le paya d'une petite révérence en tenant sa robe d'un côté. « Susan Delgado, pour vous servir. » Il se tapota la gorge à trois reprises de la main droite.
« Grand merci, saï Susan Delgado.
J'espère que c'est une heureuse rencontre que la nôtre. Je ne voulais pas vous effrayer. »
Vous avez failli réussir.
Oui, c'est bien ce que je pensais.
Excusez-moi.
Oui, pas si fait, mais oui. Un jeune homme qui venait à l'entendre des baronnies intérieures. Elle le regarda avec un intérêt accru.
Nenny, il est inutile de vous excuser car j'étais perdu dans mes pensées, dit-elle. Je revenais de voir une amie. Et je ne m'étais point rendu compte qu'autant de temps avait passé jusqu'à ce que j'ai vu que la lune était couchée. Si vous vous êtes arrêté pour vous inquiéter de moi, je vous en remercie, étranger, mais allez de votre côté comme moi du mien. Je me rends à Hambury, à l'entrée du bourg. J'en suis tout près.
Que voilà un joli discours et des sentiments délicats, fit-il avec un large sourire. Mais il est tard, vous êtes seul et je crois que nous pouvons aller de concert. Montez-vous à cheval, Sai.
Oui, mais vraiment avancé, je vous présente mon ami Flash.
Il vous portera pendant la dernière lieue. C'est un hongre, Sai, doux comme un agneau. Suzanne regarda Will Dearborn, mi-amusé, mi-irrité. L'idée suivante lui traversa l'esprit. S'il me traite de saille, encore une fois, comme si j'étais une institutrice ou sa vieille gâteuse de grand-tante, je vais retirer ce tablier stupide et lui en fiche un grand coup.
Qu'un cheval assez docile pour supporter d'être sellé montre un peu de tempérament ne m'a jamais dérangé. Jusqu'à sa mort, mon père s'est occupé des chevaux du maire, et le maire de cette contrée est aussi le gardien de la baronnie. Je monte à cheval depuis que je suis né.
Elle crut qu'il allait lui présenter des excuses, peut-être même en bafouillant. Mais il se contint d'opiner tranquillement avec un air songeur, qu'elle aima plutôt. « Alors mettez le pied à l'étrier, gente dame. Je marcherai près de vous et ne vous dérangerai pas par ma conversation, si vous ne tenez pas à l'entendre. Il est très tard et, à ce qu'on dit, il y a mauvais parler après que la lune est couchée. » Elle fit non de la tête, adoucissant son refus d'un sourire.
Je vous remercie de votre bonté, mais il ne serait peut-être point convenable que je chevauche la monture d'un jeune étranger à 11 heures du soir.
Le jus de citron n'ôte point une tache sur la réputation d'une dame aussi facilement que sur un corsage, vous savez. Il n'y a personne ici pour vous voir, répartit le jeune homme d'une voix follement raisonnable. Et que vous soyez lasse, je ne le sais que trop. Venez donc, Sai.
S'il vous plaît, cessez de m'appeler comme ça. J'ai l'impression d'être d'un âge aussi canonique qu'une...
Elle hésita un bref instant, reconsidérant le mot « sorcière » qui lui était d'abord venu à l'esprit.
« Qu'une vieille femme. »
« Va pour Miss Delgado, alors. Vous êtes bien sûr de ne pas vouloir monter à cheval ?»«
Tout à fait sûr. Je ne chevaucherai en aucun cas à Califourchon avec une robe, Monsieur Dearborn, même si vous étiez mon propre frère. Je ne serai point séant. »
Prenant alors appui sur l'étrier, il se pencha au-delà de sa selle. Flash supporta docilement son manège, se contentant de lui balayer les oreilles de sa queue, ce que Suzanne aurait été ravie d'imiter, eût-elle été à la place de Flash, tant elle les trouvait à son goût, et remit pied à terre un vêtement roulé en boule dans les mains. Une lanière de cuir torsadé le retenait. D'après elle, c'était un poncho.
« Vous n'avez qu'à vous en recouvrir les jambes et les genoux en guise de cache-poussière, » dit-il.
« Ça suffira largement pour satisfaire au décorum. Il appartenait à mon père, qui était bien plus grand que moi. » Il regarda un instant en direction des collines occidentales, et elle vit alors combien il était beau, avec une sorte de dureté qui jurait avec son extrême jeunesse. Elle ressentit un léger frisson intérieur et souhaita pour la millième fois que l'abominable vieille n'ait pas laissé dévier ses mains de sa tâche, si déplaisante ait-elle été. Suzanne ne voulait pas contempler ce bel étranger et se souvenir en même temps du contact de Réa.
« Non, » persista-t-elle avec douceur. « Merci encore. Je vous suis reconnaissante de votre bonté, mais je dois refuser. »
« Alors je vais marcher près de vous, et Flash nous servira de chaperon, » fit-il gaiement. « Jusqu'à l'entrée de la ville, du moins, il n'y aura pas Dieu pour nous guetter, et penser à mal de la compagnie formée d'une jeune femme parfaitement comme il faut et d'un jeune homme plus ou moins comme il faut. Une fois arrivé là-bas, je toucherai mon chapeau en vous souhaitant une très bonne nuit.
« J'aimerais mieux que vous n'en fassiez rien. Vraiment. »
Elle se passa la main sur le front.
« Il vous plaît à dire qu'il n'y a point Dieu pour nous voir, car il y a parfois des yeux, même quand il ne devrait point y en avoir. Et je me trouve dans une situation un peu délicate en ce moment.
« Je vous escorterai pourtant, » s'obstina-t-il. Il s'était soudain rembruni. « Nous vivons des temps troublés, Miss Delgado. Ici, à Mégis, vous êtes à l'abri des pires tumultes, mais... ils font parfois des incursions. » Elle ouvrait la bouche pour protester encore une fois, supposa-t-elle, pour lui dire peut-être que la fille de Pat Delgado n'avait nul besoin qu'on veille sur elle, quand elle repensa aux nouveaux hommes du maire et au regard froid qu'il coulait sur elle quand l'attention de Thorin était tournée ailleurs. Elle avait vu ces trois-là, ce même soir, quand elle s'était mise en route vers la masure de la sorcière. Eux, elle les avait entendus approcher et avait eu suffisamment de temps pour quitter la route et faire halte derrière le premier pignon venu. Elle refusait de s'avouer qu'elle s'était cachée, plus exactement. Ils repartaient vers la ville et elle supputa qu'à l'heure qu'il était, il buvait un coup au repos des voyageurs et continuerait jusqu'à ce que Stanerus ferme le bar. Mais elle n'avait aucun moyen d'en être sûre. Il pouvait revenir.
« Si je n'arrive point à vous en dissuader, très bien, en ce cas, » dit-elle avec un soupir de résignation enfoncée qu'elle était loin d'éprouver. « Mais pas plus loin que la première boîte aux lettres, celle de Dame Biche. Elle marque les limites de la ville. »
Il se tapota la gorge à nouveau et accompagna cela d'un autre de ses saluts absurdes et enchanteurs, le pied tendu comme s'il voulait écraser celui d'autrui, le talon planté dans la poussière.
« Merci, Miss Delgado. »
Cette fois au moins, il ne m'a pas appelé Sai, songea-t-elle. C'est un début. 2. Elle s'attendait à ce qu'il jacasse comme une pie en dépit de sa promesse de garder le silence, parce que les garçons de son entourage n'en faisaient pas d'autre. Sans en tirer vanité, elle se savait jolie, ne serait-ce que... parce que, en sa présence, les garçons ne pouvaient ni se taire, ni se tenir tranquilles. Et celui-ci allait lui poser plein de questions que les garçons de la ville n'avaient nul besoin de lui poser. Quel âge avait-elle? Avait-elle toujours habité Hambury? Ses parents vivaient-ils toujours? Et une bonne cinquantaine d'autres tout aussi ennuyeuses. Tout ça pour en venir à une seule, toujours la même. Avait-elle un ami attitré? Mais Will Dearborn des baronnies intérieures ne s'enquit ni de son éducation, ni de sa famille, ni de ses amis. La façon la plus commune d'aborder le chapitre des rivalités amoureuses avait-elle découvert? Will Dearborn se contenta de marcher à ses côtés, une main passée dans la bride de Flash, les yeux tournés vers l'est, en direction de la mer limpide. Ils en étaient assez proches à présent pour que l'odeur du sel piquant les yeux aux larmes se mêlât à la puanteur de pétrole bitumineux, même par vent du sud. Quand ils passèrent devant Sidgo, elle se sentit heureuse de la présence de Will Dearborn, même si son silence finissait par être irritant. Elle avait toujours trouvé le pétroléum et sa forêt squelettique de Derrick un tantinet effrayant. Pour la plupart, ses tours d'acier avaient cessé de pomper depuis longtemps. Mais les pièces détachées, le besoin et le savoir avaient toujours manqué pour les réparer. Il n'y avait aucun moyen d'arrêter celles qui fonctionnaient encore. 19 sur 200 environ. Elle pompait encore et encore, les réserves de pétrole dans le sol qu'elle forait semblant inépuisables. On en utilisait encore un peu, mais très peu. La plupart du pétrole recoulait dans les fosses en dessous des stations de pompage. Il y avait de moins en moins de machines fonctionnant au pétrole ces jours, et elles diminuaient avec chaque année qui passait. Le monde avait changé, et cet endroit lui évoquait un étrange cimetière mécanique où certains cadavres ne seraient pas tout à fait. Quelque chose de froid et de doux vint se nicher au creux de ses reins, et elle ne put réprimer un petit cri. Will Dearborn pivota vers elle, portant ses mains à sa ceinture. Puis il se détendit et sourit. C'est la façon qu'a Flash de vous dire qu'il se sent délaissé. Désolé, Miss Delgado. Elle se retourna vers le cheval. Flash la couva d'un bon regard, baissant la tête comme pour dire qu'il regrettait de l'avoir effrayée. Belle hiverne que cela, ma fille, songea-t-elle, entendant la voix chaleureuse et raisonnable de son père. Il veut savoir pourquoi tu te montres si distante, c'est tout. Moi aussi, ça ne te ressemble guère. Messire Dearborn, j'ai changé d'idée, fit-elle. J'aimerais bien monter votre cheval.
3.
Lui tournant le dos, il resta à contempler Sidgo, main dans les poches, tandis que Suzanne étendait le poncho sur le trousquin de la selle. Une selle noire de cow-boy toute simple, sans marque de la baronnie ni d'un quelconque ranch, puis mettait le pied à l'étrier. Elle retroussa sa jupe, jetant un vif coup d'œil à la ronde, certaine qu'il jouerait les voyeurs. Mais il lui tournait obstinément le dos, fasciné, semblait-il, par les Derrick rouillés.
« Que leur trouves-tu de si intéressant, mon goujat ? »
songea-t-elle un peu contrariée, par l'heure tardive et le résidu de ses émotions aiguillonnées, supposa-t-elle. Ces vieilleries dégueulasses sont là depuis plus de 600 ans, et leur puanteur m'a accompagné toute ma vie. Tiens-toi tranquille, mon garçon, dit-elle au cheval, une fois le pied calé dans l'étrier. D'une main, elle avait saisi le pommeau de la selle, de l'autre, les rênes. Flash, pendant ce temps, remuait les oreilles comme pour signifier qu'il se tiendrait tranquille toute la nuit s'il le fallait. Elle se hissa, et lorsqu'elle pivota, l'une de ses longues cuisses nues fit comme un éclair blanc sous la lumière des étoiles. Et aussitôt, elle se sentit transportée par la joie qu'elle éprouvait chaque fois à monter. Sauf que ce soir, cette joie paraissait un peu plus forte, un peu plus douce, un peu plus vive. Peut-être parce que sa monture était une telle splendeur, peut-être parce que ce cheval lui était inconnu. Et peut-être parce que son propriétaire lui était inconnu, se dit-elle, et qu'elle le trouvait beau. Tout cela était absurde, bien sûr, mais d'une absurdité potentiellement dangereuse. Et pourtant, c'était aussi la vérité. Beau, il l'était. Au moment où elle déployait le poncho et l'étendait sur ses jambes, Dearborn se mit à siffloter, et elle se rendit compte, surprise et crainte superstitieuse mêlée, que l'air était celui d'amour insouciant, le lait même qu'elle avait fredonné en se rendant chez Réa. « Peut-être est-ce le cas, ma fille ?» lui murmura la voix de son père. « Certes pas !» lui rétorqua Téline Péto. « Je ne vois point le quart dans le moindre vent qui passe, ni dans l'ombre la plus légère. C'est bon pour les petites vieilles qui se réunissent au cœur vert par une soirée d'été. Cette chanson ancienne, tout le monde la connaît. » « Peut-être vaudrait-il mieux que tu aies raison, » reprit la voix de Pat Delgado. « Car, si c'est le cas, il viendra comme le vent, et tes plans ne lui résisteront pas plus que l'écurie de mon pas ne résistait devant le cyclone. » Ce n'était point le cas. Ni l'obscurité, ni les ombres et les silhouettes lugubres d'Edéric ne la séduisaient au point de le lui faire accroire. Rien à voir avec le cas, uniquement une rencontre fortuite avec un charmant jeune homme sur la route solitaire qui la ramenait en ville. « Je suis à nouveau décente, » dit-elle d'un ton sec qui lui était assez étranger. « Vous pouvez vous retourner si vous en avez envie, messieurs Dearborn. » Ne se faisant pas prier davantage, il se retourna et l'examina. Il resta silencieux un instant et elle lut dans son regard qu'il la trouvait belle. Mais malgré son trouble, causé peut-être par l'air qu'il avait siffloté, elle en fut fort satisfaite. « Vous avez fière allure là-dessus. Vous montez bien, » finit-il par lui dire. « J'aurai avant peu mes propres montures, » répondit-elle. « Maintenant, les questions vont fuser, » songea-t-elle. Mais il se contenta d'opiner comme s'il avait déjà été au courant de ce point de détail et se remit en marche en direction de la ville. Se sentant légèrement déçue, sans savoir exactement pourquoi, elle fit claquer sa langue à l'adresse de Flash et le pressa des genoux. Il se mit en branle, rattrapant son maître qui lui flatta les naseaux d'une petite caresse affectueuse. « Comment appelle-t-on cet endroit-là » demanda-t-il en montrant les lyriques du doigt. « Le Petroleum ? Sidgo. Je ne sais point d'où ça vient. Certains lyriques pompent encore ?» « Si fait, pas moyen de les arrêter. Personne ne sait plus. »« Oh !» dit-il. Et il s'en tint là, à ce simple « Oh !» Mais il s'écarta de Flash un instant quand ils arrivèrent à hauteur de la piste envahie de mauvaises herbes qui menait à Sidgo, et traversa pour jeter un coup d'œil à la vieille guérite abandonnée. Dans l'enfance de Suzanne, elle portait un écriteau strictement réservé au personnel. Mais lors d'une tempête, un coup de vent ou autre l'avait arraché. Will Dearborn, sa curiosité une fois satisfaite, revint d'un pas tranquille vers son cheval, ses bottes soulevant la poussière de l'été, à l'aise dans ses habits neufs. Ils se dirigèrent vers la ville dans cet équipage. Un jeune homme à pied, coiffé d'un chapeau plat, et une jeune femme à cheval, jambes et genoux recouverts d'un poncho. La clarté des étoiles pleuvait sur eux comme elle l'avait fait sur d'autres jeunes gens des deux sexes depuis la première heure du temps. À un moment donné, Suzanne, levant les yeux, surprit l'éclair d'un météore zébrant d'orange vif la voûte céleste. Elle songea à faire un vœu, puis, avec une sorte de panique, s'aperçut qu'elle ne savait pas quoi souhaiter, qu'elle n'avait aucun vœu à formuler. 4. Elle garda le silence jusqu'à une demi-lieue de la ville, puis posa la question qu'elle n'avait cessé de retourner dans sa tête. Elle avait prévu de la poser après qu'il eût commencé à la questionner, mais ça l'ennuyait d'être celle qui brisait le silence. À la fin, elle n'y tint plus, sa curiosité était trop grande. « D'où venez-vous, messieurs Dearborn ? Et qu'est-ce qui vous amène dans notre petit coin de l'entre-deux-mondes, si vous ne voyez pas d'inconvénient à ma demande ?» « Je n'en vois aucun, » dit-il, levant les yeux vers elle avec un sourire. « Je suis content de vous parler. J'essayais simplement de trouver un biais pour commencer. Faire la conversation n'est pas mon fort. » « Alors quel est-il, Will Dearborn ?» se demanda-t-elle. Oui, elle aurait bien aimé le savoir, car en rectifiant sa posture sur la selle, elle avait posé la main sur la couverture roulée en boule derrière elle, et sentit qu'elle dissimulait quelque chose. Chose qui, au toucher, avait tout d'une arme à feu. Rien ne prouvait que c'en était une, bien sûr, mais elle ne se souvenait que trop bien de la façon dont il avait porté instinctivement ses mains à sa ceinture quand elle avait crié de surprise. « Je viens du monde de l'intérieur. J'ai comme une petite idée que vous l'aviez deviné de vous-même. Nous avons une façon de parler bien à nous. » « Si fait. Quelle est votre baronnie, si je peux me permettre ?»«
La nouvelle Canaan. »
Elle se sentit saisie d'une véritable excitation. La nouvelle Canaan, le centre de la filiation. Ça n'avait plus la même valeur qu'autrefois, bien sûr, mais cependant...
« Vous n'êtes point de Gilead ?»
demanda-t-elle, détestant la nuance de sentimentalité puérile qui colora sa voix. Et, quand elle pensait nuance, elle se flattait sans doute.
« Non !» dit-il en éclatant de rire.
« Rien d'aussi noble que Gilead. Je suis seulement Demphil, un bourg à une quarantaine de roues plus à l'ouest. Plus petit qu'Ambry, j'intuite. »
« Roues ? Il a dit roues ?» songea-t-elle, émerveillée par cet archaïsme.
« Et quel bon vent vous amène à Ambry, si vous pouvez toutefois me le dire ?»«
Pourquoi pas ? » ?»«
Deux de mes amis m'accompagnent, messire Richard Stockworth de Pendleton, Nouvelle-Canaan, et messire Arthur Heath, jeune et joyeux dri, qui lui se trouve effectivement être de Gilead. « Je suis venu ici sur ordre de l'affiliation, à titre de compteur. »«
Et vous comptez quoi ?»«
Tout et n'importe quoi. Tout ce qui pourrait aider l'affiliation dans les années à venir, » fit-il d'une voix d'où toute trace de frivolité s'était enfuie. « Nos démêlés avec l'homme de bien sont devenus des plus sérieux. »«
Vraiment ?»«
Peu de vraies nouvelles nous atteignent si loin au sud et à l'est du moyeu de décision. »
Il approuva du chef. «
La distance qui sépare votre baronnie du moyeu central est la raison principale de notre présence ici. Mégis s'étant toujours montré loyal envers la filiation, si cette dernière doit jamais faire appel à certaines ressources des baronnies extérieures, il y a tout lieu de croire qu'elles seront acheminées. La question à laquelle il nous faut répondre, c'est sur combien la filiation peut-elle compter ?»«
Combien de quoi ?»
« Oui, » acquiesça-t-il comme si elle avait fait une constatation au lieu de l'avoir interrogée. « Et combien de quoi ?»« À vous entendre, l'homme de bien serait une vraie menace. Ce n'est rien qu'un bandit, au fond, saupoudrant ses meurtres et ses rapines des mots « démocratie » et « égalité ». Dearborn haussa les épaules et elle crut qu'il bornerait là son commentaire. Mais il poursuivit avec répugnance. Peut-être en était-il ainsi autrefois, les temps ont changé. À un moment donné, le bandit est devenu général, et maintenant le général se verrait bien régner au nom du peuple. Il marqua une pause, puis ajouta gravement « Les baronnies du nord et de l'ouest brûlent, gentes-dames. Mais elles sont à des milliers de lieues d'ici, pour sûr. » Cet échange de propos décontenançait Suzanne tout en l'excitant de bizarre façon. Il lui paraissait surtout exotique, comparé au train-train étriqué d'Ambry où demain était toujours le même jour et où le puits à sec du voisin alimentait trois jours de conversations animées.
« Oui, » dit-il. « Non pas si fait, mais oui. » Ce qui sonnait à l'oreille de Suzanne avec une étrangeté agréable.
« Mais le vent souffle dans cette direction, » fit-il, se tournant vers elle avec un sourire. Une fois encore, cela adoucit sa mâle beauté et le fit ressembler à un enfant qui a laissé passer l'heure d'aller se coucher.
« Toutefois, je ne crois pas que nous verrons John Farson par ici ce soir, n'est-ce pas ?»
ajouta-t-il. Elle lui rendit son sourire.
« Si c'était le cas, me protégeriez-vous de lui, messire Dearborn ?»«
Sans nul doute, » dit-il toujours tout sourire. « Mais je le ferai avec un enthousiasme accru, j'intuite, si vous me permettiez de vous appeler par le nom que vous a donné votre père. »«
Alors, dans l'intérêt de ma propre sécurité, je vous le permets, » et je suppose que je dois vous appeler Will, toujours au nom de ce même intérêt.
C'est à la fois sage et joliment tourné, dit-il, son sourire s'accentuant jusqu'à être engageant.
C'est alors que le nouvel ami de Susan, marchant comme il le faisait, la tête à l'envers et les yeux levés vers elle, trébucha sur un morceau de roche qui saillait de la route et faillit choir. Flash hennit de tous ses naseaux et se cabra légèrement.
Susan rit de bon cœur. Le poncho glissa, révélant la nudité de l'une de ses jambes, et elle prit un certain temps à le remettre en place. Elle l'aimait bien, ce Will.
Si fait.
Quel mal pouvait-il y avoir à cela? Ce n'était qu'un jeune garçon, après tout. Chaque fois qu'il souriait, elle voyait bien qu'il y avait encore un ou deux ans, il devait s'amuser à sauter dans les meules de foin. L'idée qu'elle-même venait à peine de quitter l'âge du saut dans les meules de foin ne l'effleura pas.
« D'habitude, je suis tout sauf maladroit, » dit-il.
« J'espère que je ne vous ai pas effrayé. »
« Point du tout, Will. Les garçons n'arrêtent pas de se prendre les pieds en ma présence depuis que mes seins ont poussé. »«
Point du tout ?» répéta-t-elle à haute voix avant de revenir au sujet de conversation précédent qui l'intéressait fortement.
« Ainsi donc, vous et vos amis êtes venus à la requête de l'affiliation dénombrer nos ressources. C'est bien ça ?»«
Oui. La raison pour laquelle votre pétroleum m'intéressait si fort, c'est que l'un d'entre nous devra revenir compter le nombre de Derrick en activité. »
« Je peux vous épargner cette peine, Will. Il y en a 19. »
Il inclina la tête.
« Je vous suis fort redevable, mais il nous faudra aussi déterminer, si possible, quelle quantité de pétrole extrait ces 19 pompes.
Y a-t-il tant de machines marchant au pétrole en Nouvelle-Canaan pour qu'une information pareille vous importe à ce point? Et possédez-vous l'alchimie pour transformer le pétrole en carburant que vos machines puissent utiliser?
On appelle ça plutôt une raffinerie que de l'alchimie dans ce cas-là, du moins je pense, et je crois qu'il en reste encore une en activité. Sinon, nous n'avons pas un si grand nombre de machines, bien qu'il y ait encore quelques lampes à incandescence dans le grand hall de Gilead.
« Vous m'en direz tant !» s'écria-t-elle avec ravissement. Si Susan connaissait les lampes à incandescence et les flambeaux électriques sous forme d'images, elle n'en avait jamais vu dans la réalité. À Embry, les derniers s'étaient éteints à jamais. Il y avait deux générations de ça. Même si, dans cette partie du monde, on les avait appelées lampes à étincelles, elle ne doutait pas que cela ne désignât la même chose.
Vous disiez que votre père s'était occupé des chevaux du maire jusqu'à sa mort ? Poursuivit Will Dearborn. Son nom n'était-il pas Patrick Delgado? C'était bien lui, n'est-ce pas?
Elle baissa les yeux vers lui, ramenée brutalement à la réalité.
Comment le savez-vous? Son nom figurait dans nos cours de recensement. Nous devions compter le bétail, moutons, cochons, bœufs, sans oublier les chevaux. De tout votre cheptel, les chevaux sont de loin les plus importants. Patrick Delgado était l'homme que nous devions consulter à cet égard. Je suis désolé d'apprendre qu'il a atteint la clairière au bout du sentier, Susan. Voulez-vous accepter mes condoléances?
Si fait, je vous en sais gré.
A-t-il eu un accident?
Si fait.
Elle espéra que son ton était suffisamment explicite, à savoir, abandonnons ce sujet, voulez-vous, ne me posez pas d'autres questions.
« Laissez-moi être tout à fait franc avec vous, » dit-il.
Et pour la première fois, elle crut déceler une fausse note dans ses paroles. Peut-être était-ce seulement un effet de son imagination. Elle n'avait certes que peu d'expérience du monde. Tant Cord se faisait un plaisir de le lui rappeler quotidiennement, ou presque. Mais à son avis, ceux qui commençaient par vous dire « Laissez-moi être tout à fait franc avec vous » était susceptible de poursuivre en vous racontant que la pluie tombait de bas en haut, que l'argent poussait sur les arbres et que le grand plumeux vous apportait les bébés.
« Si fait,
Will Dearborn, » fit-elle d'une sécheresse de ton imperceptible. « On dit que la franchise est la meilleure ligne de conduite. »
Il la regarda avec une légère hésitation, puis son sourire réapparut plus éclatant que jamais.
« Ce sourire était dangereux, » songea-t-elle. « Un sourire... » Sable mouvant, si jamais il y en eut. Facile de s'y laisser engager, plus difficile peut-être de s'en dégager.
La filiation n'est plus à l'ordre du jour dans la filiation. C'est en partie la raison pour laquelle Farson a perduré comme il l'a fait, ce qui a permis à ses ambitions de croître. Il a accompli un sacré chemin depuis l'écumeur qui a débuté sa carrière comme pillard de diligence à Garland et Desoy, et il ira encore plus loin si la filiation n'est pas revitalisée. Peut-être même jusqu'à Mégis. Elle avait du mal à imaginer ce que l'homme de bien pourrait bien vouloir à sa ville natale, cette petite bourgade endormie située dans la baronnie la plus proche de la mer limpide. Elle garda donc le silence. « Bref, ce n'est pas vraiment la filiation qui nous a envoyés ici, » dit-il. « Nous n'avons pas fait tout ce chemin pour compter des vaches, des dériques ou les hectares de terre cultivés. » Il marqua une pause, les yeux baissés vers le sol de la route, comme s'il redoutait que d'autres aspérités de roche ne se mettent en travers de ses bottes, tout en flattant machinalement les naseaux de Flash. Elle pensa qu'il était gêné, peut-être même honteux. « Ce sont nos pères qui nous ont expédiés ici. »«
Vos... »
Puis elle comprit. C'était de méchants garçons qu'on avait envoyés accomplir une pseudo-mission, s'apparentant peu ou prou à un exil. Elle pressentit que leur véritable but en se rendant à Ambry, c'était de se racheter une conduite.
« Fort bien, » se dit-elle. « Voilà qui explique le sourire sable mouvant. Hein ?»«
Méfie-toi de celui-là, Susan. Il est de la race qui brûle les ponts et renverse les malpostes avant de poursuivre joyeusement sa route sans jeter un seul regard en arrière. Non pas par méchanceté, mais avec cette bonne vieille insouciance des adolescents. » Ce qui lui remit en tête la vieille chanson, celle qu'elle avait fredonnée, celle qu'il avait sifflotée.
Nos pères, oui.
Suzanne Delgado elle-même avait commis une sottise ou deux douzaines aussi bien, en son temps, et elle ressentit de la sympathie pour Will Dearborn en même temps que de la méfiance, et de l'intérêt aussi. Les méchants garçons étaient amusants, jusqu'à un certain point. Toute la question était de savoir jusqu'où Will et ses copains avaient poussé leur prétendue méchanceté.
« Vous avez été infernaux ?» demanda-t-elle. « Infernaux, c'est le mot. »
Il faisait encore la tête, mais se rassérénait visiblement. Il eut une vivacité dans l'œil et un léger sourire au coin de la bouche.
« On nous avait prévenus.
Et comment ?»«
Il y a eu un certain abus de boisson. »
Plus quelques filles serrées de près par la main qui ne serrait point l'anse de la chope d'elle.
Question qu'aucune gentille fille ne pouvait poser tout à trac, mais qu'elle ne pouvait empêcher de lui trotter par la tête. Le sourire qui avait joué sur les lèvres de Will disparut.
Nous avons poussé la plaisanterie trop loin et elle a cessé d'être drôle. Les imbéciles ne savent pas s'arrêter. Un soir, il y a eu une course. C'était par une nuit sans lune. À minuit passé, on était tous fin sous. L'un des chevaux s'est pris le sabot dans un trou de blaireau et s'est brisé une jambe de devant. On a dû l'abattre.
Suzanne frémit. Si ça n'était point là ce qu'elle pouvait imaginer de pire, c'était déjà bien assez vilain. Mais quand il reprit la parole, cela s'aggrava.
Le cheval était un pur sang. L'un des trois qui appartenait au père de mon ami Richard, qui n'est pas très fortuné. À la suite de ça, il y a eu des scènes au sein de nos familles dont je préfère ne pas me souvenir et encore moins parler. En deux mots commençant, après moult palabres et châtiments envisagés, on nous a expédiés par ici sous couvert de cette mission. L'idée en revient au père d'Arthur.
Je crois que le père d'Arthur a toujours eu un peu peur de son fils. Il est certain que les éclats d'Arthur ne viennent pas du côté de George Heath.
Suzanne sourit à part soi, songeant à tante Corde qui ne cessait de répéter
« Elle ne tient certainement pas de notre côté. »
Puis après une pause calculée, cela a été suivi par
« Elle a une grand-tante du côté de sa mère qui est devenue folle. Vous le saviez pas? Mais si, elle a mis le feu à ses vêtements et s'est jetée du haut de l'aplomb. C'était l'année de la comète. »
« Bref, » reprit Will, «
M. Heath nous a gratifié au départ d'un dicton de son propre père. Le purgatoire s'est fait pour méditer. Et nous y voilà. Humphrey n'a rien du purgatoire. Il esquissa son drôle de petit salut encore une fois. Et même si cela était, tout le monde voudrait se mal conduire pour venir frayer ici avec ses jolies habitantes. Il faudra peaufiner un tantinet votre compliment, dit-elle de son ton le plus tranchant. Il est encore un peu trop leste, j'en ai peur. Peut-être que... Elle se tut soudain, prenant conscience avec consternation du fait suivant. Il lui fallait espérer que ce garçon accepterait de conspirer un peu avec elle. Sinon, elle pourrait se retrouver plongée dans l'embarras. Susan ? Je réfléchissais. Êtes-vous déjà censé être arrivé ici, Will ? Je veux dire, officiellement ? Non, fit-il, saisissant sur le champ où elle voulait en venir. Il paraissait assez futé dans son genre. Nous sommes arrivés dans la baronnie cet après-midi seulement, et vous êtes la première personne à laquelle l'un de nous ait parlé. À moins, bien sûr, que Richard ou Arthur n'aient rencontré quelqu'un de leur côté. Comme je n'arrivais pas à dormir, je suis sorti faire un tour à cheval pour réfléchir un peu à la situation. Notre campement se trouve là-bas. Il désigna un point à droite, sur cette longue pente qui descend jusqu'à la mer.
Si fait, on l'appelle l'aplomb.
Suzanne comprit alors que Will et ses amis campaient peut-être sur ce qui serait sous peu, et selon la loi, ses propres terres. Cette idée excitante l'amusa tout en la perturbant un peu. « Demain, nous nous rendrons en ville et paierons nos hommages à Monseigneur le maire, Hawthorne. Il a la réputation d'être un peu idiot, à en croire ce que l'on nous a dit avant notre départ de Nouvelle-Canaan. « On vous a vraiment raconté une chose pareille ? » fit-elle, haussant le sourcil.
« Oui, sérieusement porté sur la boisson et plus encore sur les très jeunes filles, » répondit Will.
« C'est un portrait ressemblant, d'après vous ?»«
Vous en jugerez par vous-même, » dit-elle, réprimant un sourire à grand effort.
« Quoi qu'il en soit, nous nous présenterons aussi devant l'honorable Kimba Rima, le chancelier de Thorin, et j'ai cru comprendre qu'il touchait ses billes, lui, et qu'il les comptait aussi, par la même occasion. »
« Thorin tiendra à vous avoir à dîner à la maison du maire, » dit Susan.
« Et si c'est demain, à coup sûr, après-demain soir. »
« Un dîner de gala à Humphrey ?» fit Will en souriant et sans cesser de flatter les naseaux de Flash. « Mais Dieu, comment vais-je supporter le supplice de l'attente ?»«
Laissez là votre langue frottée d'ortie, » dit-elle. « Mais écoutez-moi bien si vous voulez être mon ami. » C'est important.
Le sourire de Will disparut, et elle eut à nouveau la vision, comme l'instant d'avant ou celui d'encore avant, de l'homme qu'il deviendrait d'ici très peu d'années. Visage de glace, œil aux aguets, bouche aux plis sans merci. C'était là une effrayante figure en un sens. Et quelle effrayante perspective aussi. Pourtant, à l'endroit de son corps où la mégère l'avait touché, elle était en chaleur et trouvait difficile de détacher ses yeux de lui. À quoi ressemblaient ses cheveux sous le ridicule chapeau qui le coiffait, se demandait-elle.
Dites-moi, Susan,
si vous et vos amis êtes conviés à la table de Thorin, il se peut que je m'y trouve. Et si c'était le cas, Will, faites comme si vous ne m'aviez jamais vu. Vous ferez connaissance de Miss Delgado comme je ferai celle de Messire Dearborn. Vous comprenez ce que je veux dire ?
À la lettre près,
il la considéra pensivement. Êtes-vous une servante ?
Assurément, si votre père était le meneur de chevaux en chef de la baronnie, vous ne peu importe ce que je suis ou je ne suis pas.
Promettez-moi seulement, si nous nous rencontrons à front de mer, que ce sera comme si c'était pour la première fois.
Je vous le promets, mais pas d'autres questions. Nous voilà presque arrivés à l'endroit où nos routes doivent se séparer, et j'aimerais vous donner un avertissement. Ce sera une juste rétribution pour m'avoir prêté votre si agréable monture une partie du chemin, en quelque sorte.
S'il vous arrive de dîner avec Thorin et Rimmer, vous ne serez point les seuls nouveaux convives à table. Il s'y trouvera probablement trois hommes que Thorin a engagés pour lui servir de garde rapprochée.
Pas comme adjoint du shérif ?
Non, ils sont sous la seule autorité de Thorin, peut-être aussi de Rimmer. Ils s'appellent Jonas, De Pape et Reynolds. Ils n'ont point du tout l'air d'enfants de cœur, bien que l'enfance du dénommé Jonas soit si loin derrière lui qu'il a dû oublier à quoi elle ressemblait.
Jonas, c'est leur chef.
Si fait. Il boite, il a de longs cheveux aussi beaux que ceux d'une fille, et la voix chevrotante d'un vieux singe qui passe ses journées à astiquer son bond au coin du feu. Mais d'après moi, c'est tout de même le plus dangereux des trois. À mon avis, à côté d'eux, vous et vos amis n'avez rien d'infernal. Ils pourraient vous en remontrer sur ce chapitre. Bon, pourquoi lui avait-elle dit tout ça? Elle n'en savait rien. Par gratitude, peut-être. Il avait promis de garder secrète leur rencontre si tardive et avait l'air de quelqu'un qui tenait ses promesses. On bisbille avec son père ou pas.
Je les tiendrai à l'œil. Merci du conseil.
Ils gravissaient à présent une longue pente douce. Dans le ciel, la vieille mer flamboyait sans désemparer.
Des gardes du corps, ruminait-il pensif. Des gardes du corps à Umbrae, cette bourgade endormie. Quelle étrange époque, Suzanne. Vraiment étrange, si fait.
Elle aussi s'était interrogée sur la présence de Jonas, De Pape et Reynolds en ville, et n'avait pu trouver une seule bonne raison à cela. Était-ce du fait de Rimmer, d'une décision de Rimmer? Cela paraissait probable. Thorin n'était point le genre d'homme à être ne serait-ce qu'effleuré par l'idée d'avoir des gardes du corps. Elle l'aurait juré, le haut shérif lui ayant toujours amplement suffi. Alors, pourquoi ? Ils avaient atteint le haut de la colline. Au-dessous d'eux se blottissait un ensemble de bâtisses, la petite ville d'Ambry. Seules quelques lumières brillaient encore, çà et là. L'agrégat le plus brillant signalait le repos des voyageurs. Portée par la brise tiède, Suzanne entendait d'ici « Hey Jude » martelé au piano et une vingtaine de voix avinées l'assassinant joyeusement en chœur. Les trois hommes dont elle avait entretenu Will Dearborn n'en faisaient certainement pas partie. Ils devaient se tenir au bar à fixer la salle d'un œil morne. Pas du type Merle chanteur, ces trois-là. Chacun d'eux avait un petit cercueil tatoué en bleu sur la main droite, entre le pouce et l'index. Elle songea à le dire à Will, puis se ravisa. Il le découvrirait par lui-même bien assez tôt. À la place, elle lui désigna à mi-pente une forme sombre qui surplombait la route au bout d'une chaîne.
« Vous voyez ça ?»«
Oui, » fit-il en poussant un gros soupir plutôt comique. « Serait-ce là l'objet que je dois redouter par-dessus tous les autres ? Serait-ce là la terrible découpe de la boîte aux lettres de Dame Biche ?»«
Si fait, c'est ici que nous devons nous séparer. »
Si vous le dites. Cependant, j'aimerais à ce moment précis, le vent tourna comme il le faisait parfois en été, et souffla en rafale depuis l'ouest. L'odeur saline de la mer fut balayée en un éclair, tout comme le cœur des voix avinées. Mais ce qui le remplaça fut un son infiniment plus sinistre, qui ne manquait jamais de donner la chair de poule à Suzanne et des frissons dans le dos, un bruit bas et atonal, comme le ululement d'une sirène actionnée par un homme ayant peu de temps à vivre. Will recula d'un pas, les yeux écarquillés, et Suzanne remarqua à nouveau le manège de ses mains plongeant vers sa ceinture comme pour s'y emparer de quelque chose qui ne s'y trouvait pas.
« Au nom des dieux, qu'est-ce que c'est que ça ?»«
Une tramée, » répondit-elle tranquillement. « Elle se trouve dans Vero Canyon. Vous n'en avez jamais entendu parler ?»
« Entendu parler, si, mais jamais entendu de mes oreilles jusqu'à maintenant. Mais Dieu, comment pouvez-vous supporter ça ?
Ça a l'air vivant.
Elle n'y avait jamais pensé ainsi, mais à présent, substituant en quelque sorte son écoute à lui à la sienne propre, elle trouva qu'il avait raison. C'était comme si une partie malade de la nuit donnait de la voix et s'exerçait à chanter. Elle frissonna. Flash, sentant ses genoux lui presser les flancs d'une façon plus accentuée, hennit en douceur et, le cou tendu, tourna la tête pour l'observer.
« On ne l'entend pas souvent aussi distinctement à cette époque de l'année, » expliqua-t-elle. « À l'automne, on la brûle pour la faire taire. »
« Je ne comprends pas. » Qui comprenait encore quelque chose à quoi que ce soit? Mais Dieu, on ne savait même plus arrêter les quelques pompes à pétrole qui fonctionnaient toujours à Sidgo, même si une bonne moitié couinait comme des cochons qu'on mène à l'abattoir. Par les temps qui couraient, on se montrait d'habitude reconnaissant de découvrir simplement que certaines choses marchaient encore.
En été, quand il trouve le temps, meneurs de chevaux et cow-boys tirent des tombereaux de broussailles et d'épines jusqu'à l'entrée de Vero Canyon, dit-elle.
Ça marche avec des broussailles sèches, mais du petit bois vert, c'est mieux, car le but, c'est de faire de la fumée, et plus elle est épaisse, mieux c'est. Vero est un box canyon peu profond avec des parois à pic, un peu comme une cheminée couchée sur le côté, vous voyez?
Oui.
Selon la tradition, la flambée a lieu le matin de la moisson, le lendemain de la fête, du festin et du feu de joie. Le premier jour de l'hiver. Si fait. Bien que dans nos régions, l'hiver ne se fasse pas sentir si tôt. On ne suit d'ailleurs pas rigoureusement la tradition. On met parfois le feu aux broussailles plus tôt, si les vents nous jouent des tours, ou si le son de la tramée est particulièrement fort. Ça énerve le bétail, vous comprenez? Les vaches donnent peu ou point de lait quand la tramée fait un bruit d'enfer, et ça empêche de dormir. Je m'en serais douté. Will était toujours face au nord, et une bourrasque plus forte que les autres lui arracha son chapeau. Il tomba dans son dos, retenu par la bride de cuir qui lui appuya sur la gorge. Ses cheveux, ainsi découverts, étaient un petit peu longs d'un noir aile de corbeau. Elle fut prise du désir soudain d'y plonger les mains et de laisser ses doigts en apprécier la texture, rêche, douce ou soyeuse. Et quelle odeur aurait-il? À cette idée, un autre frisson lui échauffa le bas-ventre. Will se tourna vers elle comme s'il avait lu dans sa pensée. Et rougissante, elle bénit l'obscurité qui dérobait l'incarnat de ses joues.
Il y a longtemps que ça existe?
Depuis bien avant ma naissance, dit-elle. Mais pas avant celle de mon pas. Il m'a raconté que la terre a tremblé juste avant son apparition. Certains tiennent le tremblement de terre pour responsable, d'autres disent que c'est une absurde superstition. Tout ce que je sais, moi, c'est que ça a toujours été là. La fumée l'atténue un peu, comme elle calmerait une ruche d'abeilles ou un nid de guêpe. Mais le son revient toujours. Les broussailles qu'on empile à l'entrée du canyon servent aussi à empêcher le bétail de s'y égarer. Les bêtes y sont parfois attirées. Les dieux savent pourquoi.
Car si jamais une vache ou un mouton s'y aventure, après la flambée et avant même qu'on ait commencé à empiler le bûcher de l'année suivante, peut-être, on ne les revoit plus. Quoi que ce soit, c'est vorace, en tout cas.
Repoussant le poncho, elle passa la jambe droite par-dessus la selle dont elle effleura à peine le pommeau et se laissa glisser au bas de Flash. Tout cela d'un seul mouvement languide. Acrobatie plus appropriée à un pantalon qu'à une jupe. Le regard éberlué de Will lui apprit qu'il avait eu d'elle une vue assez complète, mais point toutefois de ce qu'elle devait laver dans sa salle de bain, porte close. Alors, à quoi bon s'en offusquer? D'ailleurs, mettre rapidement pied à terre avait toujours été un de ses tours préférés, quand elle était d'humeur à se pavaner.
« Joli !» s'exclama-t-il.
« C'est mon pas qui m'a appris, » fit-elle, réagissant à l'interprétation la plus innocente de son compliment. Cependant, le sourire avec lequel Suzanne lui rendit les rênes suggérait qu'elle était disposée à accepter le compliment dans tous les sens du terme.
« Suzanne,
Vous avez déjà vu la tramée ?
Si fait. Une ou deux fois, d'en haut.
Et ça ressemble à quoi ? C'est laid, répondit-elle sans hésiter. Jusqu'à ce soir où elle avait observé le sourire de Ria de fort près, tout en supportant le tripotage de ses doigts indiscrets, elle aurait dit bien haut que c'était la chose la plus laide qui lui eût été donnée de voir.
Ça ressemble à un feu de tourbe couvant sous la cendre et aussi à un marécage couvert d'une écume glauque. Un brouillard s'en élève. Parfois, on dirait de longs bras décharnés munis de doigts.
Ça s'étend.
Si fait, on le dit.
Chaque tramée s'étend, mais s'étend lentement. Elle ne s'échappera de Veru Canyon ni de votre temps ni du mien.
Levant les yeux au ciel, elle s'aperçut que les constellations avaient poursuivi leur course pendant leur conversation. À l'idée qu'elle pourrait parler avec lui toute la nuit, de la tramée de Sidgo, de sa tante si exaspérante, ou d'à peu près n'importe quoi, elle fut plongée dans la consternation. Pourquoi fallait-il que ça lui arrive maintenant, au nom des dieux? Après avoir repoussé depuis 3 ans les avances des garçons d'Ambry, pourquoi fallait-il qu'elle en rencontrât à la fin qui l'intéressait si étrangement? Pourquoi la vie était-elle si injuste? Elle se remémora sa pensée de tantôt, celle qu'avait émise la voix de son père. Si c'est le cas, il viendra comme le vent, et tes plans ne lui résisteront pas plus qu'une écurie devant le cyclone.
Non! Non, non et non!
Ainsi arma-t-elle son esprit avec une farouche détermination contre cette idée. Ce n'était pas une écurie, mais sa vie qui était en jeu. Suzanne tendit la main et toucha la tôle rouillée de la boîte aux lettres de Dame Biche, comme pour affirmer sa place dans le monde. Ses rêveries et petits espoirs n'avaient pas tant d'importance, peut-être, mais son père lui avait appris à s'évaluer par sa capacité à faire les choses qu'elle avait dit qu'elle ferait. Elle n'allait point jeter aux orties son enseignement, simplement parce qu'elle venait de faire la connaissance d'un joli garçon à un moment où elle se trouvait en plein marasme, autant corporel qu'émotionnel.
« Je vais vous abandonner ici. Vous avez le choix, rejoindre vos amis ou reprendre votre chevauchée, » dit-elle.
La gravité dont sa voix était empreinte l'attrista un peu, car c'était celle d'un adulte.
« Mais n'oubliez point votre promesse, Will. » Si jamais vous me rencontrez à Front de Mer, à la maison du maire, et si vous voulez que nous soyons amis, faites comme si c'était la première fois.
Je ferai de même.
Il acquiesça, et elle vit son sérieux à elle reflété sur son visage à lui comme par un effet de miroir. Et sa tristesse aussi, peut-être.
Je n'ai jamais prié une jeune fille de chevaucher en ma compagnie, ni d'accepter que je lui rende visite.
Je vous le demande à vous, Susan, fille de Patrick. Je vous apporterai même des fleurs pour mettre toutes les chances de mon côté. Mais ça ne servira à rien, je crois.
Elle fit non de la tête.
Nenny, en effet.
Vous a-t-on promise en mariage?
C'est audacieux de ma part de vous le demander, je sais, mais c'est sans malice aucune.
Je n'en doute point, mais je préférerais ne pas vous répondre. Je suis dans une position très délicate en ce moment précis, comme je vous l'ai déjà dit. En outre, il se fait tard, c'est ici que nos chemins se séparent, Will. Mais attendez encore, un instant.
Elle fouilla dans la poche de son tablier et en sortit une part de gâteau enveloppée d'une feuille verte. Elle avait mangé l'autre moitié en gravissant le chaos. Dans ce qui lui semblait maintenant l'autre versant de sa vie. Elle tendit les reliefs de son petit repas du soir à Flash, qui les flaira, puis les dévora, avant de nicher ses naseaux dans sa main. Elle sourit, heureuse de sentir le chatouillement duveteux au creux de sa paume.
« Si fait, t'es un brave cheval !»
Elle regarda Will Dearborn, campé au milieu de la route, remuant ses bottes poussiéreuses en la fixant d'un air malheureux. Toute dureté avait quitté son visage à présent.
Il faisait le même âge qu'elle, paraissait même plus jeune.
Quelle heureuse rencontre que la nôtre, n'est-ce pas ?
Demanda-t-il. Elle s'avança, et sans même réfléchir à ce qu'elle faisait, elle lui posa les mains sur les épaules, se haussa sur la pointe des pieds, et l'embrassa sur la bouche. Le baiser fut bref, mais n'avait rien de celui d'une sœur.
Très heureuse. Si fait, Will.
Mais quand il s'avança à son tour vers elle, aussi étourdiment qu'une fleur se tourne vers le soleil, espérant renouveler l'expérience, elle le repoussa gentiment, mais fermement.
Nanny, c'était juste pour vous dire merci, et un seul merci devrait suffire à un gentleman. Allez en paix, Will.
Il s'empara des rênes comme plongé dans un rêve, les examinant un instant comme s'il n'en connaissait absolument plus l'usage, et leva à nouveau les yeux vers elle. Elle le vit qui s'efforçait de se clarifier les idées et les émotions, dissipant l'impact que son baiser avait eu sur lui. Elle l'aima pour cela, ravie d'avoir agi comme elle l'avait fait.
« Vous aussi, allez en paix, » dit-il, sautant en selle. « Il me tarde de vous rencontrer pour la première fois. »
Il lui sourit, et elle perçut dans ce sourire tous les vœux que son désir formait. Et prenant alors son cheval, il lui fit faire volte-face et repartit par où ils étaient venus. Peut-être pour jeter un nouveau coup d'œil au pétroléum. Elle demeura sur place, près de la boîte aux lettres de Dame Biche, souhaitant de toutes ses forces qu'il se retourne et la salue de la main, afin qu'elle puisse revoir son visage encore une fois. Elle aurait juré qu'il le ferait. Et pourtant non, il n'en fit rien. Puis, comme il s'apprêtait à se détourner et à descendre la colline pour gagner la ville, il se retourna, finalement, et leva la main qui volta un instant dans l'obscurité, comme une phalène blanche. Suzanne lui rendit son salut, puis poursuivit sa route, heureuse et malheureuse à la fois. Cependant, et c'était là peut-être le plus important, elle ne se sentait plus du tout souillée. Au moment où elle avait effleuré les lèvres du garçon, sa chair avait paru purifiée du contact de Réa. Il s'agissait sans doute là d'un petit tour de magie, mais elle le trouva très bienvenu. Elle continua d'avancer, sourire aux lèvres, regardant les étoiles plus fréquemment qu'à son habitude quand elle était dehors, à la nuit tombée.